Bonjour et bienvenue à ce séminaire sous forme de colloque d'une journée portant sur histoire diplomatique et histoire connectée à l'époque moderne que j'organise dans le cadre de la chaire portant sur l'histoire globale de la première modernité. Nous aurions 6 communications pendant la journée, 3 dans la matinée, 3 dans l'après-midi. Avant de donner la parole aux intervenants, j'avais voulu moi-même vous livrer quelques réflexions sur la question en général. Je vais bien sûr revenir sur ça encore à la fin de la journée. Parce que, bien sûr, l'histoire diplomatique, c'est un sujet très classique, mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de conjuguer deux choses qui ne sont pas tout à fait différentes, mais où il y a certains croisements, mais peut-être aussi quelques tensions intéressantes à explorer entre histoire diplomatique et histoire connectée. Alors, l'histoire diplomatique, comme on le sait, est un sujet assez ancien et voilà au moins un des pères fondateurs du sujet à l'époque moderne en Europe, celui qui en quelque sorte a même été le prédécesseur de celui qui est considéré comme le père de l'histoire moderne, notamment Leopold von Ranke. Et ici, il s'agit donc de Joseph von Hammer-Purgstall, qui a, entre autres, donné cette histoire de l'Empire ottoman, qui est restée une référence jusqu'au milieu du XXe siècle, car si on regarde, par exemple, la Méditerranée de Brodel, on voit qu'il y a énormément de notes de bas de page qui reviennent au travail de von Hammer, où il avait donc effectivement aussi dépouillé l'ensemble des archives et surtout les chroniques ottomanes. Moi-même, je me suis intéressé à von Hammer par un biais un peu différent, c'est-à-dire par cet article qui est un peu moins connu, qu'il a écrit, qu'il a livré d'ailleurs en 1830, « Memoir on the Diplomatic Relations between the Courts of Delhi and Constantinople in the 16th and 17th century », portant donc sur les relations diplomatiques entre l'Empire moghol et l'Empire ottoman, et dans lequel il avait présenté un certain nombre de documents de première importance sur ces deux pouvoirs à l'intérieur donc du monde musulman. Alors, le traitement qu'il fait von Hammer, ou de Hammer, comme il apparaît ici, était assez classique. Il était aussi philologue, donc il y avait le traitement par le biais des conventions déjà établies de diplomatique. Mais bien sûr, en regardant de près son article, il y a aussi des éléments, par exemple, venant de l'histoire culturelle, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'histoire culturelle, et aussi en partie l'histoire militaire, même si c'est moins important dans ce cas particulier, parce que, comme vous le savez, l'Empire ottoman et l'Empire moghol n'avaient pas de frontières en commun. Donc, les possibilités de conflits physiques étaient plutôt limitées par rapport, par exemple, aux Safavides, qui ont eu des guerres et avec les Ottomans et avec les Moghols. Alors, en fait, aujourd'hui, je vais juste utiliser cette occasion pour vous donner un exemple un peu compliqué pour vous expliquer un peu comment moi je vois cette relation entre histoire diplomatique et histoire connectée. Je commence donc mon histoire en fin du 18e, début 19e siècle. Et vous voyez ici, on est dans une situation, dans une cour, c'est en fait la cour des Marats en Inde centrale. Et si on regarde de près, même pas si près que ça, on voit qu'il y a un certain nombre d'étrangers au milieu de cette cour-là. Il y a des Européens ici et là, il y a aussi d'autres. Et d'ailleurs, c'est assez typique dans n'importe quelle cour, grande cour de l'Inde, que ce soit chez les Marats, chez les Afghans, etc., il y aurait toujours une présence des envoyés, des ambassadeurs résidents, etc., etc. Dans ce cas particulier, en fait, mon intérêt au départ se portait sur une question. C'était pas tellement au départ pour moi l'histoire diplomatique, c'était plutôt l'histoire militaire. Et en fait, je me suis intéressé à la question des mercenaires et des chefs de guerre qui fonctionnaient à la fin du XVIIIe siècle en Inde. Et donc, il y a un certain nombre de Français assez connus, Dubuigne, le franco-suisse Antoine Paulier, etc. Mais il y avait un personnage qui m'a vraiment frappé, parce qu'il était un peu hors du commun, qui était un Américain. Donc, un Américain seigneur de guerre en Inde à la fin du XVIIIe siècle, je me suis dit, mais ça, c'est intéressant. Et il s'agissait de quelqu'un qui s'appelait donc M. Boyd. Et voici un petit texte de la fin du XVIIIe siècle, écrit par un certain Edward Moore, dans lequel il explique comment, en fait, il y avait un corps militaire, one respectable corps of this description, was commanded by my friend Mr. Boyd, an American gentleman, now a colonel of militia and a member of the Congress in the United States. Donc, ayant fait sa carrière en tant que seigneur de guerre en Inde, il est rentré aux États-Unis et il est devenu homme politique et membre du Congrès des États-Unis. Et donc, par la suite, il y a la description des bataillons, etc., comment il avait... He had 6 guns, 4 and 6 pounders, each attended by 1 or 2 European gunners, puis des éléphants, etc. Et par la suite, il nous raconte comment M. Boyd fonctionnait. Et pendant un certain temps, il était... donc, he was once in the pay of Tokoji Holkar, father of the present, varied characters of that surname. Afterwards, in the Peshwa's service, disliking that, he quitted the Maratha employ and marched on Hyderabad. Donc, c'est quelqu'un qui fait la carrière typique de ce genre de personnage, qui passe d'un maître à l'autre. Et d'ailleurs, il y a même un nom assez amusant que donne Edward Moore à ce genre d'activité. Il l'appelle Mulkgiri. Mulkgiri, c'est acheter et vendre des royaumes, en quelque sorte. Donc, c'est ce qu'il faisait. Il passait pas seulement lui d'un côté à l'autre. En fait, il achetait et vendait ses maîtres, en quelque sorte. Alors, je me suis demandé comment est-ce que quelqu'un comme ça, monsieur de Massachusetts, arrive en Inde et par quel biais, par quel réseau peut-il donc arriver à constituer ce genre de présence. Et en regardant, finalement, je suis tombé sur une lettre de lui. Donc, voici ses dates, 1764-1830. Je suis tombé sur une lettre de lui dans la Société historique de Massachusetts, et dans laquelle il explique à quelqu'un, un Américain extrêmement haut placé, qui est Henry Knox, comment, en fait, il est arrivé en Inde. C'est après son retour. Et voici la petite phrase qui m'a intrigué. Il dit que quand il est arrivé en Inde, tout de suite, il est allé voir quelqu'un, un homme très important qui s'appelait General Conway. Et donc, je me suis... J'ai suivi les traces de Phil O'Regui en m'intéressant sur cet autre personnage qui était donc General Conway. Et là, je suis arrivé vraiment à une espèce d'histoire connectée, finalement, de la diplomatie. Alors, qui était donc le General Conway en question? Qui était donc, comme il nous explique, à l'époque, General of the French Indies at Pondicherry. Donc, au moment de l'arrivée de notre ami Boyd, c'est la fin, plus ou moins, de la deuxième moitié des années 1780, et il rencontre ce General Conway qui est à la tête des armées à Pondichéry. Et il s'agit de qui? Alors, il s'agit de ce personnage assez curieux, irlandais, jacobite. Donc, voici ses dates, qui vient donc de County Kerry, et qui, donc, a ses origines ici. Et comme je sais que Geoffrey Parker s'intéresse particulièrement à l'histoire de l'Irlande, je me fais un petit plaisir de raconter ça aussi. Alors, donc, il vient de Killorglan, et très jeune, avant l'âge de 10 ans, il est allé s'installer en France, où il a fait toute une carrière, donc, militaire. Vous voyez, il est né à Templance en 1733. Il est lieutenant au régiment irlandais de Saint-Clair déjà à l'âge de 14 ans. Puis il est capitaine. Il est major au régiment d'Aquitaine en 1769, chevalier de Saint-Louis en 1770, colonel. marié à Paris avec cette dame avec un nom un peu compliqué, mais c'est beau, Françoise Antoinette Jeanne Florimonde Langlois de Boucher, hein, et donc puis majeur au régiment d'Anjou. Jusque-là, rien de très extraordinaire. Elle a fait la guerre de 7 ans. Ça, c'est aussi tout à fait normal à l'époque. Mais alors là commence l'histoire qui fait un peu plus compliquée, plus connectée, et qui, par laquelle il va donc commencer à se promener un peu partout dans le monde. Et pourquoi? C'est parce que dans les années 1770 éclate donc la guerre d'indépendance des États-Unis. Et on le sait qu'à l'époque, donc, les États-Unis tout de suite ont envoyé un diplomate qui était ce monsieur-là, Silas Deane, pour recruter des gens en Europe et en particulier en France. Donc il y a toute une série de Français, d'Irlandais et comme celui-ci qui porte même aujourd'hui un nom, il y a une ville en Illinois qui porte son nom, c'est Johannes de Kalb, qui était donc en réalité probablement un paysan allemand, mais qui s'est fait passer par un aristocrate, et donc arrivant aux États-Unis. Il y a toute une série de ces gens, d'ailleurs, qui arrivent plus ou moins au même moment, dans les années 1776, par là. Il y a parmi ces gens quelques personnages assez dangereux. Par exemple, on sait que De Kalb et d'autres avaient, à un moment donné, un petit projet de transformer les États-Unis naissants dans une version des Pays-Bas. Parce que dans leur idée, il serait impossible d'avoir une république comme ça, avec un président. Donc, en fait, leur idée, c'était de faire nommer le comte de Broglie en tant que Stadthouder des États-Unis. C'est un projet qui reste bien sûr inachevé, mais vous voyez un peu ces Européens arrivant avec leurs propres idées et créant des tensions donc dans le cadre des États-Unis. Et parmi ces gens, donc, il y a Conway, Thomas Conway. Il arrive, il a déjà une position assez importante dans les guerres de 76-77. Il est très actif, notamment en Pennsylvanie et dans le Maryland et Delaware. Et d'ailleurs, tout de suite, on voit qu'il est dans une situation assez compliquée parce que, ayant fait la guerre de 7 ans en Europe, il a décidé plus ou moins que lui et des gens comme lui sont plus compétents en matière de guerre que les Américains. Et cela va causer tout de suite des ennuis. Pourquoi? Parce que si on regarde l'histoire des États-Unis à cette époque-là, il y a quelque chose, c'est une petite histoire anecdotique, mais si vous regardez même les histoires plus ou moins standards, il y a un incident qui ressort, c'est ce qu'on appelle le Conway Cabal. Le Conway Cabal, c'est donc une conspiration montée par Conway et quelques-uns de ses amis pour remplacer George Washington. Donc, parce qu'il avait décidé, à la suite du siège de Philadelphie, Washington était un piètre général, qu'il était totalement incompétent, qu'il faisait la guerre comme on le faisait 20 ans ou 25 ans avant, et donc on a décidé qu'il fallait le remplacer. Voilà donc une petite lettre d'Alexander Hamilton au gouverneur de Clinton. C'est pas de la même famille, mais voilà un peu la façon dont il est vu. Hein? You and I had some conversation when I had the pleasure of seeing you last with respect to the existence of a certain faction. Certain faction, c'est le Conway Cabal. Et puis il dit que I believe it unmasked its batteries too soon and begins to hide its head, but as I imagine, it will only change the storm to a sap, all the true and sensible friends to the country, and of course to a certain great man, bien sûr George Washington, ought to be upon the watch to counterplot the secret machinations of his enemies. Have you heard anything of Conway's history? He's one of the vermin bred in the entrails of this chimera dire, c'est une référence littéraire, and there does not exist a more villainous calumniator and incendiary. He's gone to Albany on a certain expedition. Alors, donc, il se peut que Washington était un piètre général, mais il était assez habile comme, et astucieux comme homme politique. Donc, en fait, il a utilisé ses réseaux pour monter un espèce de contre-coup contre Conway. Conway est obligé de se retirer, de donner sa démission un peu contre sa volonté. Et puis, Washington va arranger quelque chose qui est assez amusant, curieux en tout cas. Il va demander à un de ses amis, un certain Cadwallader, d'organiser un duel et dans lequel Conway sera blessé très grièvement, hein, presque mortellement. Et voilà donc la lettre qu'écrit Conway à la suite de ça à Washington. I find myself just able to hold the pen during a few minutes and take this opportunity of expressing my sincere grief, etc. etc. Donc Conway est plus ou moins écarté, il perd le jeu politique et on a l'impression que c'est la fin de sa carrière. Mais non, absolument pas. Parce qu'en réalité, il va rentrer tout de suite en France. Sa femme, entre-temps, a tissé des liens très curieux avec Benjamin Franklin, qui était à l'époque en France. Elle écrit avec d'une manière assez curieuse, « Voilà mon cher papa. » Voilà donc la façon d'adresser Ben Franklin. Manifestement, ils ont un rapport assez proche. Et peut-être en partie à cause de ça, et en partie à cause de ces autres possibilités réseau, finalement, ce n'est pas du tout la fin de sa carrière. D'ailleurs, en rentrant en peu de temps, il va recommencer. Et il va recommencer effectivement en regardant ailleurs dans le monde français. Donc, deuxième étape, assez rapide, c'est Conway qui repart donc de la France, mais cette fois-ci où ? En Afrique du Sud. Il est envoyé donc en Afrique du Sud, et nous sommes au début des années 1780, et c'est cette tentative des Français d'aider les Néerlandais contre les Anglais. Et donc, en effet, il va arriver en Afrique du Sud, il va intervenir dans une série de choses. Même aujourd'hui, il y a un petit endroit près du Cap qui s'appelle le Conway Redoubt, qui était construit sous ses ordres. Il va passer un peu de temps, mais il comprend très vite que le gros morceau, ce n'est pas l'Afrique du Sud, c'est un peu marginal dans sa conception des choses. Et en fait, il est toujours en train de viser l'Inde. Donc, il a des correspondances quand il est au Cap avec le marquis de Bussy, qui reste toujours un homme très important de pouvoir. Et donc, par ce biais et par d'autres, il arrive finalement en Inde. Et c'est là, effectivement, qu'il va rencontrer notre ami Boyd, arrivé des États-Unis. Et vous voyez que même si Boyd était américain patriote, ça n'empêche absolument pas qu'il ait des relations avec Conway, le maître de Conway Cabal, et qui avait fait toutes ces choses, soi-disant, contre George Washington. Donc, en fait, les deux côtés de cette lutte de factions s'entendent en quelque sorte, au moins il y a des communications possibles entre les deux. Alors donc, Conway qui arrive à Pondichéry, il est à Pondichéry tout d'abord en tant qu'homme militaire, mais par la suite, et ça c'est un tout petit peu plus tard, juste avant, en 1787, il devient donc gouverneur des Indes françaises. Et alors, en tant que gouverneur des Indes françaises, il est embarqué dans une autre petite histoire assez curieuse, et ça, c'est l'histoire de Pignot de Béarn. Un nom peut-être pas si connu que ça, c'est un de ces évêques, comme on les appelle, in partibus infidelium, qui est donc nommé évêque quelque part dans l'Irak ou quelque chose comme ça, mais ça veut dire qu'il n'est pas censé vraiment rentrer dans cet évêché. Par contre, ce qui l'intéresse à Pignot de Béarn, c'est l'Asie du Sud-Est. Et Pignot de Béarn, en particulier, commence à tisser un projet qui est un projet resté inachevé au moins à l'époque, mais c'est un projet pour la conquête du Vietnam. Et alors, donc, Pignot de Béarn, évêque, homme militaire au moins dans ses rêves, et qui a des informateurs, des informations venant de Cochinchine, et qui décide donc que le moment est venu pour rentrer dans cette région-là. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, on sait qu'à l'époque, il y a eu cette rébellion de Tyson qui est assez importante au Vietnam. Dans le cadre de cette rébellion, finalement, un groupe de Vietnamiens a envoyé un prince, le prince Chan, qui est le fils aîné de Jalom, tout d'abord en Inde, et puis il est arrivé en France en 1785. Alors, Lucien Belli me dira que ça fait penser à un incident qui s'est passé à peu près 100 ans avant, quand il y a eu des envoyés venant de Thaïlande, de Siam, à Versailles, autour de 1686-87. Mais cette fois-ci, ce sont des gens venus de Vietnam et qui prennent donc une intervention militaire française. Alors, bien sûr, comme toujours, les différents groupes ont des idées différentes. C'est-à-dire, les Vietnamiens ont envie de l'aide française pour renforcer celui qui deviendra plus tard l'empereur Jalong, qui est donc qui est fondateur de la dynastie des Nguyen. Nouvelle dynastie qui sera fondée donc en 1802, mais qui à l'époque n'est qu'un seigneur parmi d'autres au Vietnam. Les Français ont une idée tout à fait différente, c'est-à-dire ils pensent qu'ils peuvent tout d'abord créer une base militaire dans une île, qui est Pulo Condor, et puis à partir de cette île, rentrer carrément pour faire la conquête du Vietnam. Et alors là, on voit quelque chose qui est assez curieux. Conway qui est embarqué dans cette affaire-là. Pourquoi? Parce qu'il est gouverneur des Indes et il est donc poussé par Pignot de Behen à faire le nécessaire. Et pendant un certain temps, on a ses lettres, il va continuer à jouer double jeu. C'est-à-dire, d'un côté, disons à Pignot de Behen qu'il a envie de continuer un peu dans cette ligne-là, mais en même temps, il écrit à d'autres en disant qu'il n'est pas du tout enthousiaste. D'ailleurs, il y a un récit de voyage de John Barrow dans lequel il nous raconte que tout cela, il y a eu des difficultés entre les deux, essentiellement parce que Conway, selon ce récit, avait une maîtresse qui s'appelait Madame de Vienne, qui était la femme de son aide-de-camp et sa maîtresse. Et comme l'évêque a insulté cette femme, donc selon ce voyageur anglais, c'était à cause de ça que les deux ne s'entendaient plus. Et donc le projet est tombé un peu dans les eaux à cause de ça, parce que, comme on lit ici, Madame de Vienne had an absolute sway over Conway. Donc finalement, ce qui va se faire, c'est que les Français vont envoyer une petite expédition qui aura un peu de succès, mais surtout pour jouer dans le sens des Vietnamiens, c'est-à-dire qui va finalement renforcer la position de Jalom, qui deviendra donc l'empereur, et avec cette possibilité donc de consolider sa position au Vietnam, et les Français vont rester à l'écart, au moins pour un certain temps. Bien sûr, ils vont revenir plus tard au 19e siècle. Il y a aussi une autre petite conséquence, c'est-à-dire qu'on va à cette époque-là fortifier la ville de Saigon. Et si vous regardez ça, vous comprendrez tout de suite que c'est selon plus ou moins les plans de Vauban. Donc, en fait, il y a aussi une espèce d'influence militaire et un petit moment de transfert de technologie. Il y a deux transferts de technologie, d'ailleurs. Transfert de technologie militaire, ici. Mais il y a aussi un autre projet de transfert de technologie. C'est une petite histoire, ça vaut la peine peut-être d'explorer un autre jour. C'est que le prince vietnamien envoyé à Paris pour faire les négociations, va rencontrer à Paris le grand homme politique et agronome Thomas Jefferson. Et Jefferson a des conversations assez longues avec lui, avec un projet assez curieux d'importer le riz vietnamien aux États-Unis. Donc, parce que Jefferson a cette idée que la qualité de riz dans la Caroline ne vaut pas la peine au niveau de la concurrence internationale. Et donc, il est en train d'essayer d'améliorer l'agriculture états-unienne en utilisant, donc, soi-disant, c'est un emprunt venu du Vietnam. C'est un projet qui ne va pas donner de résultats, mais ces conversations et ces échanges entre le prince vietnamien et le futur président des États-Unis restent quand même un moment assez curieux. Alors, finalement, donc pour finir avec Conway, par la suite, arrive la révolution. Il est envoyé au Mascareigne, ça se passe mal, il rentre en France, et donc il va finalement être nommé à la tête de l'armée contre-révolutionnaire du Midi, où il va donc participer, mais avec une certaine distance, dans ce moment assez curieux que l'insurrection d'avril-juillet 1792, qui va coûter la vie au comte de Saillance, qui était à la tête de ça. Conway lui-même, toujours prudent, va réussir à échapper des conséquences de ça et va terminer sa vie les deux dernières années en service anglais. Donc il rentre en Angleterre et il devient donc membre du régiment irlandais comme titre de général, mais comme serviteur des Anglais. Donc vous voyez un peu comment on peut finalement terminer même en tant que jacobite à la fin du XVIIIe siècle. Donc vous voyez, un peu en traçant cette carrière, on a, si vous voulez, les quatre continents. Il a été en Amérique, il a été en Europe, bien sûr, en Afrique du Sud, puis en Asie. C'est quelqu'un qui a un fonctionnement assez compliqué, des réseaux qui vont des États-Unis naissants jusque dans les milieux missionnaires et même l'aristocratie vietnamienne de l'époque. Et finalement, donc, ce réseau-là reste une petite histoire parce que si vous regardez les histoires de cette époque-là, Conway est un nom qui apparaît de temps à autre, surtout dans les écrits portant sur le diaspora jacobite. C'est essentiellement ça. Mais néanmoins, on peut voir ici qu'à partir de lui, ou à partir de quelqu'un comme Knox, que je vais garder pour un autre jour, on peut tisser cette histoire qui est à la fois une histoire diplomatique, une histoire militaire, une histoire connectée, qui fait partie peut-être de genre de choses que Jean-Paul Gabriel a utilisé cette phrase de « global microhistory », qu'il a emprunté peut-être de Tonio Andrade. C'est on peut aussi peut-être analyser ça comme faisant partie d'une possible new diplomatic history qui a aussi été prônée depuis 20-30 ans, en regardant de très près les mouvements en détail des uns et des autres, en croisant les archives, etc. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu d'un espèce de case study, étude de cas pour ce genre de choses. Dans la journée, donc, on va commencer avec trois communications portant sur les Ottomans, le monde méditerranéen, y compris le Maghreb. Et puis, dans l'après-midi, on va passer un peu plus aux relations entre l'Europe et l'Asie, mais aussi le monde très large des Habsbourg espagnols, et finalement pour terminer avec des voyageurs indiens qui reviennent plus ou moins à l'époque, comme il s'avère, de Conway en France sous la Terreur, et puis finalement les conclusions. Donc on va commencer là avec les vrais travaux. Je vous prie d'atteindre donc vos téléphones portables, s'il vous plaît, si jamais vous avez ça. Et donc, juste deux mots pour présenter le premier de nos intervenants, qui est donc M. David Do Passo, qui est actuellement donc à Sciences Po en qualité de chercheur postdoc en histoire moderne, spécialiste du XVIIIe siècle. Il a fait sa thèse à Paris-Panthéon-Sorbonne, et sa thèse de doctorat, L'Orient à Vienne, 1739-1792, l'intégration des marchands et des diplomates ottomans dans la ville et la résidence impériale, est sortie donc de la Fondation Voltaire à Oxford. Il a aussi été postdoc à Max Weber à l'Institut universitaire européen de Florence. Les règles de jeu, c'est plus ou moins 40-45 minutes, et puis on aura un peu de temps pour la discussion. Je vous passe donc la parole et on va... C'est le premier ?